transport en commun, plusieurs taxis et minibus ont repris normalement la circulation sur les artères de Kinshasa après le mouvement de grève de lundi dernier. Situation sécuritaire à l'est de la RDC, les FRDC ont repris les contrôles des villages de Kembe, Luvungi et Binyampuri au nord Kivu dans le groupement Ihana en territoire de Walikale. Tels sont les thèmes que vous propose Tuvine de la presse de ce soir. Et trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de John Ngombwa, il est directeur des informations à la télévision Antenne A et mettant depuis Kinshasa. Bonsoir John Ngombwa.
Bonsoir Guy.
Joël Kadé-Danga, il est éditeur du journal Impact News, c'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadé-Danga.
Bonsoir Guy Maté.
Et Magloire Paloukou, il est directeur général de la radio Kivu 1, c'est une radio qui émet depuis Goma au nord Kivu. Bonsoir Magloire Paloukou.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous les confrères en studio.
Bonsoir Magloire.
Transport en commun à Kinshasa, situation sécuritaire à l'est de la RDC. Pour savoir comment la presse a exploité ces différentes informations, on écoute cette revue de presse que nous présente Samuel Kachak.
Bonsoir. Forum d'État s'est intéressé à la grève des conducteurs et titre. Esprit des morts signe sa première victoire sur Matata Pognon. Le quotidien juge que la grève des transporteurs privés en début de cette semaine était une réussite totale dans la mesure où elle a paralysé les activités dans toute la ville. Pour le potentiel, au vu des conséquences enregistrées, cette grève est un véritable défi lancé au gouvernement de la République car Kinshasa était paralysé. Après la grève des chauffeurs, Matata Pognon relance le train urbain sur l'axe gare centrale Kinshuka, titre La Prospérité. Le quotidien s'interroge, va-t-on assister à une autre série de démolitions à Kinshasa, particulièrement sur la voie ferrée reliant la gare centrale au quartier Kinshuka dans la commune d'Engaliema, car sur cet axe, plusieurs constructions ont été érigées rendant ainsi la voie ferrée étroite, la circulation du train urbain difficile, voire même impossible à certains endroits. L'avenir annonce qu'à court terme, le gouvernement de la République commande 200 bus en procédure d'urgence pour accroître l'offre publique à Kinshasa et dans toute la RDC. Abordons un autre sujet d'actualité, la tempête des tropiques constate que le dernier mandat de Joseph Kabila à la tête de la RDC commence mal. La consoeur fait allusion à la reprise des combats au Nord Kivu suite à une mutinerie attribuée au général Bosco Ntaganda, la grève des transporteurs privés et la paralysie des activités qui s'en est suivie à Kinshasa. Rebondissant sur le même chapitre, le Phare a consacré sa une du mercredi matin à l'accord signé entre la RDC et le Rwanda. Le journal relève un point de cet accord qui, selon lui, intrigue les Congolais. Il s'agit de celui faisant état d'une nouvelle opération militaire mixte entre les armées rwandaises et congolaises en vue de traquer les FDLR au Nord Kivu. L'observateur qui s'intéresse aux conséquences des opérations armées au Nord Kivu constate que plus de 39 000 Congolais sont réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Une fois de plus, écrit le journal, des combats en cours dans la province du Nord Kivu replongent la population dans la tourmente et l'obligent à traverser les frontières par milliers pour trouver refuge dans les pays voisins. Ce qui fait dire au journal le potentiel que le Nord Kivu, c'est la jungle.
Merci Samuel Kachak. Un petit commentaire, John Ngombwa, vous êtes directeur des informations à la télévision Antenne A qui émet depuis Kinshasa. L'actualité c'est aussi cette pétition initiée par la société civile pour la récomposition de la CENI et qui aurait récolté environ 17 000 signatures.
Oui, pour commencer par ce dernier point, je crois qu'il est nécessaire qu'aujourd'hui la CENI accepte cette ouverture nécessaire. On s'est rendu compte qu'elle s'est embourbée dans des complications politiciennes parce qu'elle n'a pas voulu faire de la CENI une institution d'experts. On a voulu en faire une institution des politiciens. Voilà où nous en sommes. Je crois qu'il est grand temps que la CENI se ressaisisse, au moins pour pouvoir limiter les dégâts par rapport à l'organisation des élections au pays.
17 000 signatures sur environ 30 millions d'enrôlés, vous pensez que c'est représentatif?
Mais je crois que ceux qui signent, ce ne sont pas forcément les électeurs. Ici, il s'agit d'un débat d'idées. Et du point de vue du principe, je crois que ce soit une signature ou 10, la CENI doit se remettre en cause et c'est là, peu importe le nombre des signatures.
Joël Kadedanga, éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. L'autre actualité, c'est l'équipe nationale, les Léopards, qui connaissent des difficultés financières. Les staffs nationaux travaillent sans contrat et certains joueurs évoluant à l'étranger refusent même de rejoindre leurs collègues qui sont déjà à Lubumbashi.
Oui, à ce sujet, Guy, il faut reconnaître que la préparation pour les éliminatoires Coupe du Monde 2014 commence déjà mal en RDC parce que ça commence déjà sur le coup de menace de la part du coach Monsieur Leroy. Et se dire que notre pays, on aime toujours aller par tâtonnement et agir en dernière minute. Je crois que les gouvernements devront prendre les mesures nécessaires pour que on ne prive pas aux Congolais cette fête, tant au niveau africain que international, comme cela a été le cas les deux dernières éditions au niveau africain.
Magloire Faloukou, vous êtes directeur général de la radio Kivu 1, c'est une radio qui émet depuis Goma au nord Kivu. Certainement que l'actualité est dominée par la situation sécuritaire dans cette province.
Oui, effectivement, Guy, ici, sur Kivu 1, l'actualité que nous avons traitée, mais c'est là l'insécurité, mais surtout le questionnement ou la question des députés et des notables du territoire de Massissi sur le nombre exact de morts. On a parlé de 100 ou 300 morts et nous avons essayé de chercher à savoir il y a combien de morts et essayer de demander les notables. Mais également, il y a un business sur les déplacés de guerre. Nous venons d'apprendre dans une petite enquête qu'il y a des gens qui sont en train d'enregistrer les déplacés de guerre afin de les faire traverser, de gagner de l'argent de là, la frontière vers le Rwanda. Ça semble être très sensible. Nous sommes en train de suivre cette actualité-là.
Avant de commencer, nous allons analyser cette actualité. Vous l'avez appris comme nous, depuis hier, la musique congolaise est en deuil, avec la disparition du musicien Ndombe Opetum. Et John Gumba, certainement que vous avez connu Ndombe Opetum, appelé affectueusement Vieux le Noir. Comment vous avez réagi quand vous avez appris sa mort inopinée?
Oui, c'était avec beaucoup de tristesse parce que Pépé Ndombé, c'était parmi, je peux dire aujourd'hui, la mémoire, les gens qui constituent la mémoire de la musique congolaise. Et donc sa disparition était d'autant plus inattendue que, visiblement, il était en bonne santé. Bon, nous avons appris qu'il a fait une crise cardiaque, bon. À son âge, 68 ans, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais moi, tout de suite, je me suis dit, tiens, mais voilà encore un autre qui est parti. Sans que nous ayons pris le temps de pouvoir, systématiser ce qu'il avait pour les générations à venir. C'est des pertes pour la musique, c'est des pertes pour la culture congolaise. Je crois qu'il est grand temps qu'on essaye un peu de répertorier toutes ces richesses vivantes encore. Et nous avons Lutumba Simaro et tant d'autres, pour pas que on apprenne du jour au lendemain que tel est décédé, sans pour autant qu'il ait légué quelque chose à la culture et à la musique congolaise.
Je veux le cas de Danga, Ndombe Opetum a commencé la musique trop jeune. C'était un musicien de talent, un bon chanteur, un bon compositeur. Et il préparait même, il prévoyait un concert pour présenter officiellement son album Tendresse. Et lorsque vous avez appris sa mort, comment est-ce que vous avez réagi?
En tout cas, une tristesse à notre niveau, parce que une tristesse qui ne pouvait qu'être sujette à une interpellation dans le chef de nos autorités dans ce pays. C'est comme si on attend que la personne arrive au point où Ndombe est arrivé hier pour que l'on s'intéresse à sa personne. Tout le temps, peut-être qu'il a présenté la maladie ou quoi que ce soit, on n'est pas intervenu. Et John l'a dit tantôt, nous, on ne s'intéresse pas à capitaliser toutes les richesses artistiques, culturelles que nous avons. Aujourd'hui, on les abandonne, qu'il s'agisse des artistes musiciens, qu'il s'agisse des artistes de la plastique, et tant d'autres. On attend que ce soit le pire pour intervenir. Je profite de votre micro pour présenter en notre nom et au nom de notre rédaction toutes nos condoléances à sa famille éplorée, tant au niveau biologique que culturel.
Magloire Paloukou, certainement que vous avez appris aussi la mort de Ndombe Opetum. Il était resté, lui, Joski Kambokuta et le vieux Simaro Massia, les trois monuments, les trois vestiges même de l'Okejazz. Maintenant qu'il vient de partir, comment vous réagissez?
Oui, j'ai vécu, je n'ai pas seulement appris, mais j'ai vécu la mort d'Ndombé Opetum, avec qui j'ai travaillé au ministère de la Culture sous le ministre Baekwa Edras Kambalé. Nous avions partagé le même bureau. Je ne sais pas comment il sera enterré, puisque je me rappelle un soir, nous sommes partis remettre des gerbes de fleurs et de l'assistance à une famille d'un artiste, un peintre qui était décédé dans le Bas-Congo. Ndombé Opetum, j'ai joué de la musique avec lui ici à Goma, dans un grand hôtel. C'est pour moi un papa. Je me rappelle chaque fois qu'on se croisait dans notre bureau là-bas à Kinshasa sur le boulevard, il me regardait et disait mon fils, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ndombé Opetum, c'est franchement l'icône qui est partie. Et je garde de lui aussi des phrases acerbes aux gens qui ne respectent pas la culture. Depuis les années 80, vous savez, c'est un homme qui était strict quand il travaillait avec le seigneur Taboulay avant. Et qu'il soit revenu encore dans Hockey Jazz, c'est un monument, un monsieur avec qui, un collègue entre guillemets, pour que je sois à ce niveau de l'appeler collègue, c'est quelqu'un qui laisse un vide à côté de moi, quoi.
Merci. Notre premier thème de ce soir, transport en commun. Plusieurs taxis et minibus ont repris normalement la circulation sur les artères de Kinshasa après les mouvements des grèves de lundi dernier. Cependant, les chauffeurs des minibus, surtout ceux de la marque 207, sont encore loin de respecter les codes de la route. Les éléments de la police anti-émeute ne sont plus visibles sur les artères. Toutefois, la police de circulation routière, renforcée par les unités mobiles, veille pour éviter les dérapages. Michel Kifindangoy pour les détails.
Deux jours seulement après les retraits des éléments de la police anti-émeute sur les artères de la capitale, les chauffeurs des 207 communément appelés Esprit des Morts ont repris avec les mauvaises habitudes. Face à un trafic intense ce jeudi, certains conducteurs se sont démarqués par l'excès de vitesse sur le boulevard Lumumba notamment et des dépassements de bandes brusques, exposant ainsi les usagers de la route aux accidents. D'autres occasionnent des embouteillages sur certaines avenues comme celle de l'université Bypass et sur la route des Matadis par leur mauvais stationnement. Sur le boulevard du 30 juin, les conducteurs des minibus n'hésitent pas de brûler le feu des signalisations au croisement où il n'y a pas d'agent de police. Toutefois, la police des circulations routières n'entend pas fléchir. Elle a renforcé ses mécanismes de contrôle et même des poursuites des mauvais chauffeurs. Ainsi, des motards, des jeeps et des grands camions bondés des policiers sont déployés sur un grand nombre de grands carrefours comme rond-point Gaba pour réguler la circulation et veiller au grain. Un automobiliste nous a même témoigné avoir été pourchassé de rond-point Gaba à Matete, où il a enfin été arrêté suite au mauvais stationnement.
Le gouvernement ne va pas céder au chantage des transporteurs qui ont grévé lundi dernier. C'est ce qui découle de la réunion d'évaluation ayant réuni lundi soir les ministres des Transports, des Finances et de l'Intérieur auxquels étaient associés le gouvernement provincial, la police et les entreprises des transports étatiques. Toutefois, si les contrôles techniques doivent se poursuivre, les policiers appelés robots doivent être retirés de ces contrôles. Et pour ne pas pénaliser la population, il a été décidé l'augmentation de la rotation du train urbain, les finances de ces petits trains et de la stupe pour réparer leurs bus en panne. John Gomba, les chauffeurs ont grévé lundi dernier pour dénoncer ce qu'ils ont appelé tracasserie, alors que pour le gouvernement, il ne s'agissait pas de tracasserie, il s'agissait plutôt des contrôles techniques. Comment vous analysez cela? Est-ce un malentendu entre le gouvernement et les chauffeurs ou simplement une diversion des chauffeurs qui voulaient se soustraire des contrôles techniques?
Non, moi je dis que c'est une décision prise sur le coup de l'émotion par le gouvernement. Et on ne peut pas diriger un pays sur base des émotions. Mais il faut analyser les décisions quand on les prend. Le gouvernement ou l'État ne dispose d'aucun moyen de transport. C'est mettre à la chasse de ces fameux bus Mercedes 207. Est-ce que cela permettait de résoudre aucun problème? On pouvait en amont procéder autrement sans pour autant commencer la chasse à ces gens. La conséquence, on a vu déjà que ces chauffeurs subissaient déjà diverses tracasseries. Une fois que le gouvernement a pris cette décision, cela a renforcé la position des agents de circulation qui abusent très souvent de leur pouvoir. On a vu ce que cela a donné. Maintenant, il faut que le gouvernement comprenne qu'il faut accompagner ces genres de décisions. Il faut bien les analyser et ne pas chercher à faire des actions d'éclat qui n'ont pas de lendemain.
Vous pensez que ça n'a pas été, les décisions n'ont pas été bien réfléchies, bien pensées, bien analysées?
Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cela a changé? Je crois que nous sommes retombés dans la même situation. Les fameux 207, ils circulent toujours dans la ville avec les mêmes risques.
Mais à condition qu'ils se soumettent d'abord au contrôle technique.
Mais qui a dit ça? Tous ces bus qui circulent là, par quel contrôle technique est-ce qu'ils sont passés? Aucun contrôle technique. On a repris. Après, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Après les deux premières journées de grève, ils ont eu peur de créer une autre frustration auprès des usagers des transports en commun. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle. Les bus, ils circulent normalement.
Et Joël Kadedanga, fallait-il laisser ces fameux 207 continuer à commettre des dégâts ou il fallait carrément prendre une décision pour mettre un terme à ça?
Pour prendre une décision pour un gouvernement responsable, il faut éviter les états d'âme. Les états d'âme que John a appelé les émotions. Et les états d'âme, c'est apprendre qu'un 207 a créé la mort sur le boulevard Lumumba. Et par conséquent, on doit prendre une décision de les évacuer du transport en commun.
Mais pourquoi vous pensez que les décisions ont été prises sous impulsion des émotions?
Mais état d'âme, c'est lorsqu'on apprend le nombre créé, ou soit le nombre des morts que ces bus ont créé dans un laps de temps. C'est que maintenant on se lève dans des états d'âme pour prendre une décision. Une décision pour un gouvernement responsable, on ne doit pas chercher, n'est-ce pas, à regarder aux fruits, mais aux racines. Les racines, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, à l'état actuel de choses, notre état, notre gouvernement n'est pas en mesure seul d'assurer un transport en commun pour sa population. Et par conséquent, tout le transport en commun sur toute l'étendue de la RDC est assuré par les privés. Mais parce que le transport est assuré par les privés, quelles sont les mesures que le gouvernement doit prendre pour, n'est-ce pas, évacuer petit à petit de la circulation ces engins de la mort? Je me rappelle, je pense, j'étais encore à l'université de Lubumbashi en 98. Le même problème s'était posé à l'époque, je me rappelle, c'était Fekote Momoke, qui était le gouverneur de province. La solution que Mouzé et Laurent Désiré Kabila avaient trouvée à l'époque était la meilleure. C'est-à-dire, c'est enlever les droits des douanes sur tous les véhicules de transport en commun. Un moyen de résoudre le problème. Et aujourd'hui, à Lubumbashi, il y avait à l'époque des combis anciens modèles qu'on appelait les Katouba. Et à l'époque, je me rappelle, l'ancien gouverneur Katouba Manke nous avait donné deux gros camions pour transporter les étudiants parce que ça posait le problème. Mais si aujourd'hui, on peut mûrir les décisions, telles les décisions qui ont été prises à l'issue, n'est-ce pas, de cette grève, de dire qu'on va défiscaliser l'importation de véhicules de 20 places. Mais voilà les décisions qui devaient être prises au lieu de sauter sur les états d'âme pour dire non, on retire de la circulation les esprits des morts, sans une solution, n'est-ce pas, palliative, une solution définitive.
Il n'a pas été décidé de retirer de la circulation les fameux bus 207, mais plutôt de les soumettre à un contrôle technique.
J'ai suivi l'entretien qu'a accordé le général Bisengimana à un de votre confrères, je crois, Ngoï. Michel Kifinangoï. 200 bus déjà n'étaient plus autorisés à circuler. Mais c'était ça le problème, et c'est de là que le problème est parti.
Oui,
dès que le problème se pose à ce niveau-là, déjà 200 bus pour une ville comme Kinshasa, où la circulation est intense, donc c'est déjà grand, c'est déjà grave. Et c'est pour cette raison il avait fallu qu'on regarde les racines. Les racines, c'est quoi? Trouver d'abord la solution avant d'évacuer ces bus. Je me rappelle que les Katouba sont partis de la circulation à Lubumbashi. Jusqu'aujourd'hui, il y a les minibus Yas qu'aujourd'hui qui sont conduits par ceux qu'on appelle les Wewa, qui font Yolo Ezo, Yolo Kapela. Ces bus ici ont été amenés à Lubumbashi grâce à cette intervention d'autorité et une décision en douceur qui a évacué de la circulation les engins de la mort.
Guy, je voudrais où se trouve le problème? Généralement, les transports en commun subissent les tracasseries des agents de circulation, les policiers. Alors, la décision du gouvernement de pouvoir faire passer ces bus par les contrôles techniques a fait augmenter donc cette capacité de coercition des agents sur les propriétaires des bus. Voilà donc où est-ce que nous en sommes arrivés.
Magloire Paloukou, il y avait cet impératif de pouvoir remettre de l'ordre dans ces secteurs-là. Le gouvernement avait-il tort de soumettre ces bus aux contrôles techniques? Vous pensez que cette mesure n'était pas opportune?
Non, je pense qu'il ne faut pas encourager l'incivisme dans notre pays. Ça, c'est la première partie peut-être de ma réponse. Et la deuxième partie, c'est que le gouvernement est victime de son manque de politique de transport. Parce que, vous rappelez, nous tous qui avons vécu à Kinshasa, personne ne fait le transport en commun pour aider les gens à aller au travail. C'est du commerce. C'est comme quelqu'un qui va travailler en sachant que le minibus ou la voiture de transport va lui amener de l'argent chez lui à la maison. Donc c'est des courses pour faire vivre d'abord le propriétaire. Et c'est là le problème. C'est là effectivement que l'État doit savoir que ces gens vont au travail, font travailler leur bus pour vivre. Mais je pense qu'il faudra revoir cette façon de contrôler les voitures et tous les engins de circulation dans le pays. Il ne faut pas donner raison absolument aux chauffeurs, aux propriétaires des bus de faire le contrôle technique. C'est quand même triste ça. Mais que le gouvernement, comme Joël l'a dit, ait une politique pour petit à petit, peser aussi avec son propre moyen de transport sur le marché à Kinshasa, comme ici, au nord Kivu.
John Ngomboa, le gouvernement n'a pas cédé aux exigences des chauffeurs. Avait-il raison de rester inflexible ou il aurait été rationnel qu'il fasse quelques concessions à l'endroit de ces chauffeurs?
Il a cru qu'il était en position des bras de fer avec les propriétaires des véhicules de transport. Donc il s'est comporté comme un sentiment d'orgueil, je peux dire, tout à fait déplacé, pour dire, écoutez, je me tiens à ma position. Mais on a bien vu que par la suite, aujourd'hui dans la réalité, le gouvernement n'a pas su tenir sa position.
Et vous avez évoqué le fait que le gouvernement n'a pas des sociétés de transport. Il a finalement décidé l'augmentation de la rotation du train urbain, 5 fois par jour, et le financement des city trains et de la STUC pour réparer leurs bus en panne.
Mais cela résout quel problème dans l'immédiat? Le problème qui était celui des fameux esprits des morts qui causaient la mort, les problèmes, l'autre plus sérieux qui est celui du transport en commun des 10 millions de Kinois chaque jour ici dans la ville. Cela résout quoi? Le train urbain, il est sur un axe donné, déjà il est généralement saturé, et puis City Train et STUC, c'est pas demain la veille, on sait ce que cela a donné. Il y a 2-3 jours, j'étais à City Train parce que je voulais faire un reportage sur les charrois automobiles, mais il faut voir, c'est terrible. Je sais pas, quand est-ce que ça sera prêt pour pouvoir venir à la rescousse de l'État.
Et Joël Kalidanga, cette grève a posé la problématique de la création des sociétés des transports par l'État congolais. Déjà hier, le ministre des Transports et Voies de Communication s'est déclaré impressionné par le niveau de destruction en 7 ans de la société des transports urbains du Congo, STUC. Il dit 11 bus de la STUC sur les 235 réceptionnés par le gouvernement sont opérationnels. Et pour aider cette société-là à éviter la réédition d'une mauvaise gestion, le ministre préconise un partenariat public et privé.
Oui, privilégier un partenariat public et privé, c'est bien, mais vous l'avez vous-même dit, ou le ministre l'a dit, lorsqu'il reconnaît que la gestion des sociétés de transport en commun, ça n'a pas marché. Avec plus de 200 bus, aujourd'hui on est à moins d'une dizaine de bus, donc vous comprenez que on veut regarder aux fruits au lieu de regarder aux racines. Qu'est-ce que j'appelle racine dans la création des sociétés de transport en commun, ou même dans l'importation, dans la commande de plus de 1 million de bus? Dans notre pays, l'impunité est déjà établie en culture. Donc les bus d'utilité commune, d'utilité publique, on peut en faire ce qu'on veut. Et les gestionnaires, ils sont toujours là, on va soit les remplacer, sans une punition exemplaire, de telle sorte que celui qui va gérer pour la prochaine fois puisse se servir de cet exemple de manière à bien gérer la chose publique. Aujourd'hui, du sommet à la base, l'impunité est établie en mode. Ceux qui gèrent mal, ils sont reconduits. Et ils continuent toujours à gérer. Donc on prend les mêmes, on recommence. Mais écoutez-moi, on va prendre 200 bus, ils seront là. Mais écoutez, dans 5 ans, ça sera encore la même catastrophe comme ce qu'on a assisté avec la STUC. Et dans 5 ans, un prochain ministre qui va remplacer Kalumba, il va encore faire le même constat d'un bus que Kalumba aura commandé aujourd'hui. C'est pour vous dire qu'on doit, n'est-ce pas, déraciner le problème au lieu de voir les fruits qu'il crée. Et déracinement du problème, c'est quoi? C'est que
qui est la sanction positive et la sanction négative pour tous ceux qui sont appelés à gérer dans notre pays. Je vous dis, 200 bus seront commandés, seront mis en circulation, mais je vous dis que dans 5 ans, et peut-être éventuellement sur le même plateau, je vous dirai la même chose et on va faire l'évaluation avec John sur le plateau d'Antenne A.
Magloire Falukou, le ministre des Transports, préconise pour mettre fin à cette mauvaise gestion, préconise le partenariat public-privé.
Ça serait une bonne chose, mais rappelez-vous à l'époque de Mova Sakani, 97-98, qui était aussi ministre du transport, il avait rêvé d'ailleurs à mener un bateau qui prendrait les gens vers Ndjili et pour, jusqu'en ville. Parce que le gouvernement n'a jamais eu une très bonne politique pour éliminer la suprématie, l'impérium des privés. Mais il se pose un problème, parce que les privés et le gouvernement doivent avoir le même niveau de compréhension. Moi, je fustige cet incivisme de croire parce que le gouvernement est pauvre et incapable ou irresponsable quelque part et de ne pas l'obéir. Il faudra que le gouvernement ait ses bus, il faudra que le gouvernement ait ses voitures, ses camions, pesés au même titre que les privés. Mais là, il y aura encore un autre problème, Guy. Supprimer autant de gens, des privés, sur le terrain avec le bus du gouvernement, c'est créer encore de chômage. Donc, il faudra voir ceci, planifier absolument le transport, comme c'était le cas à Lubumbashi, à un moment donné avec Mzé Kabila, ou quand on a créé les Yaoufélé, des choses comme ça. Donc, résoudre un problème, c'est créer encore un autre besoin. Et ici, je pense que ce partenariat ne peut pas marcher tant que le privé va avec son bus chercher du business, chercher à manger. Il ne va pas accepter le dictat du gouvernement. Et le gouvernement ne va pas accepter le dictat du privé. Sinon, ça sera toujours vivre à couteau tiré dans un milieu où les gens ont besoin d'aller au travail. Je pense qu'il faut repenser cela. Peut-être qu'il y ait même une loi de réglementation urbaine, de savoir qui a le droit d'avoir un bus, qui a le droit d'avoir un camion de transport, pour quelles raisons. Je pense que ça sera de cette manière-là qu'on pourra résoudre ce problème.
Merci. Notre dernier thème de ce soir, situation sécuritaire à l'est de la RDC. Les FRDC ont repris les contrôles des villages de Kembe, Luvungi et Binyampuri, au nord Kivu, dans les groupements Ihana, en territoire de Walikale. C'est à l'issue des combats qui les ont opposés dimanche dernier aux rebelles du groupe Nduma Défense Congo, NDC de Tcheka. Ces groupes occupaient ces villages depuis plus de 3 semaines. Le bilan de ces combats fait état des 4 rebelles et un soldat FRDC tué, selon les responsables militaires. Denis Lukeso nous fait le point.
Les éléments de NDC ont décroché de Luvungi et Binyampuri après des combats qui ont duré toute la journée de dimanche. Les opérations lancées dimanche par les FRDC consistent, selon un officier FRDC, à ouvrir tous les accès routiers de Walikale, c'est notamment à Kibou et Kibati, Kachébéré jusqu'à Nyebiondo, encore occupés par les groupes armés d'Antcheka et ses hommes. Pour l'instant, les villages de Lubonga, Meran, Sindo, Braza et Kibua, à l'est de Walikale, sont toujours sous occupation de NDC de Tcheka. En visite à Binyampuri, le commandant de la force de la MONUSCO a promis au FRDC l'appui logistique pour combattre les rebelles Tcheka, mais à condition qu'ils se comportent bien envers les populations civiles. Général Chander Prakash.
Nous venons parler au commandant FRDC et nous leur assurons que s'ils se comportent bien avec la population civile, nous leur fournirons le soutien logistique nécessaire pour leurs opérations contre Tcheka et de faire en sorte qu'ils soient capables de s'installer dans le milieu et d'assurer la sécurité des populations.
Le déplacé de Luvungi, content de la reprise de ces villages par les FRDC, hésitent encore de retourner dans leur village. Ils demandent le déploiement d'un effectif important des unités FRDC dans ces 3 villages. Goma, Denis Louquet sur Radio Capi.
Au nord Kivu, les casques bleus de la MONUSCO viennent d'établir 3 bases stratégiques autour de la cité de Bunagana. Objectif, s'assurer que cette contrée ne tombe pas entre les mains des rebelles du M23 fidèles à Bosco Ntaganda. L'assurance a été faite mercredi dernier à Bunagana par le général Chandel Fakash, commandant des forces de la MONUSCO. Pour le responsable de la mission onusienne, ce déploiement vient en appui aux efforts des FRDC de sécuriser la population de cette cité contre toute invasion des rebelles du M23. Bernard Nyangi pour les détails.
Le général Chander Prakash a donné cette assurance lors d'une tournée hier à Bounagana, accompagné du chef des bureaux de la MONUSCO Nord Kivu et du commandant de la brigade Nord Kivu de la MONUSCO. Pour le chef des bureaux, le déploiement des casques bleus à Bounagana n'est pas dissuasif. Hirote Gebreselassi.
Nous avons voulu nous assurer que les mutins n'arrivent pas dans les environs de Bounagana et que Bounagana ne soit pas bien protégé. On n'est pas là pour faire simplement acte de présence, mais pour être utile.
Cette présence est renforcée des casques bleus et entre autres mobiles qui rassurent la population civile de Bounagana, dont près de 70% de ceux qui se réfugiaient déjà en Ouganda sont rentrés dans la cité les 4 derniers jours. Paulin Bounani, président de la société civile du groupement Jomba.
Avec le fait qu'on comprend que les mutins ne pourront pas arriver ici, surtout que la MONUSCO aussi chaque fois insiste en disant qu'il faut sérieusement protéger la cité.
Signalons que depuis dimanche, pratiquement, les affrontements sont suspendus dans la région de Bounagana. En ce moment, les éléments des M23 de Makinga Sultani gardent leur position dans les collines de Runyoni et Chanzu, une dizaine de kilomètres au sud-est de Bounagana, et les FARDC sont déployés à moins de 3 kilomètres au nord de ces collines, où selon certaines sources FARDC, les militaires restent en alerte. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Des miliciens proches du colonel dissident Matata Banaloki alias Cobra annoncent la création d'une nouvelle coalition des groupes armés dénommés Kogai en sigle. Dans un communiqué publié hier jeudi, cette coalition exige du gouvernement central, notamment, une décision d'amnistie en faveur de tous les ex-combattants, la reconnaissance de l'Ituri comme une province et les changements à la tête de la zone opérationnelle locale de FRDC. Joël Cadet Danga, vous êtes éditeur du journal Impact News, hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Comment vous analysez cette situation d'insécurité à l'est du pays et précisément au nord Kivu?
Oui, je peux résumer notre analyse en trois mots principaux. Il s'agit d'une complaisance nationale, une hypocrisie nationale et une complicité internationale. Je vais essayer de vous dire qu'il y a hypocrisie nationale dans le sens où il y a certains fils du pays qui tirent les dividendes dans l'insécurité qui est créée dans l'est de notre pays et qui ne voudrait pas que ça s'arrête. Vous vous souviendrez que c'est depuis 1 plus 4 qu'on a entendu les Moutéboussi, qu'on a entendu les Kundabatoare. Hier, c'était Tanganda. Tanganda s'est allié à nos forces armées. Il y a eu la paix. On a refusé de le livrer au niveau de la CPI. Aujourd'hui, c'est Makenga. En effet, et Makenga, je ne sais pas, c'est le nom du Louba. Je ne sais pas de quel village du Kassai il viendrait. Et aujourd'hui, c'est maintenant à Ituri. C'est qu'il y a une sorte d'hypocrisie nationale qui s'ajoute à une certaine complaisance dans le chef peut-être de notre gouvernement qui est complaisant vis-à-vis de ces gens. Et la complaisance s'explique par l'impunité qui est toujours accordée à ces tueurs, à ces massacreurs, à ces violeurs qui exigent même d'être amnistiés après avoir violé, après avoir tué. Donc dans notre pays, c'est comme si on a établi l'apologie de la guerre. Pour accéder à des très hautes fonctions dans notre pays, devenir député, gouverneur de province, devenir ministre, il faut avoir tué, massacré, violenté, violé. Et on peut exiger l'amnistie qu'on accorde et on accède à des hautes fonctions. Ceux qui se battent d'une manière démocratique, on se moque d'eux. Ils sont devenus les objets de la risée. Et enfin, je dis, il y a une inconscience nationale. C'est comme si les morts que l'on dénombre à Ituri comme au Nord Kivu, ce ne sont pas des humains, ce ne sont pas des gens. Et on est à l'aise dans nos postes de responsabilité et on continue à accepter cela. Voyez un peu la réaction de certains pays. Bon, bien sûr, on ne peut pas envier leur niveau, notamment la France. Lorsqu'un seul Français est pris en otage, vous voyez toute la nation mobilisée, mais c'est le contraire chez nous. Donc ça veut dire on est inconscient nationalement pour ne pas sentir la douleur que ressentent les familles qui perdent nos frères et sœurs dans l'est de notre pays.
Et John Gomboa, je rappelle que vous êtes directeur des informations à la télévision Antenne A qui émet depuis Kinshasa. Joël Kadedanga, pour analyser la situation de l'insécurité à l'est du pays, il a utilisé trois concepts: complaisance nationale, hypocrisie nationale et une complicité internationale. Vous partagez ces points de vue?
Oui, parfaitement. Je crois que je ne pourrais pas dire plus que ça. Le pays est depuis maintenant plus d'une décennie dans un cycle, dans l'œil du cyclone. On dirait que à chaque gouvernement qui arrive, vous avez une rébellion qui se crée automatiquement. Et la rébellion va rester aussi longtemps que le gouvernement sera là. Et cette rébellion est entretenue en interne et à l'extérieur. Et je pense qu'il y a une sorte de complicité, même au au niveau des forces armées de la République démocratique du Congo avec ces gens. On a pu établir des complicités qui existent entre les fameux rebelles, les fameuses forces de ceci et de cela. Et donc, moi, je partage parfaitement son point de vue. Je crois que il faut que le décideur congolais puisse se décider à mettre un terme définitivement à cette sorte de commerce des dupes, à cette sorte de tragédie entretenue militairement en RDC.
Magloire Paluku, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio Kivu 1, c'est une radio qui émet depuis Goma au nord Kivu. La situation qui se vit au nord Kivu a débuté avec des défections et nous venons de l'apprendre, cette coalition qui vient de se constituer à Ituri. Et à quoi peut-on attribuer ce phénomène des défections au sein des FRDC?
Bon, je pense qu'il y a les non-dits, parce qu'en écoutant les analyses tout à l'heure et en écoutant les reportages de Radio Okapi, j'avais l'impression de vivre une autre province, mais d'une Nations Unies, quoi. Il y a beaucoup de non-dits. Je pense que j'ai couvert la semaine dernière la 5e session de la grande commission entre le Rwanda et la RDC. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qui ne veulent pas être révélées en public ou qui ne veulent pas trouver de réponse dans l'immédiat.
Quelles sont ces choses-là qu'on ne voudrait pas dire sous la place publique?
Mais ce que je voudrais comprendre est que les par exemple, rien que pour Bunagana ou Jomba, ici au Nord Kivu, où pendant qu'il y a des assises, des concertations, les mutins puissent arriver à prendre cette ville, pendant qu'il y a des concertations, et que la MONUSCO doit s'interposer peut-être après, pour protéger quoi, puisqu'il y a des milliers encore de déplacés et des réfugiés. Ce que je voudrais comprendre aussi est que comment un militaire qui est dans un rang d'une armée est capable de donner des injonctions à toute une nation, à toute une armée. Il veut faire ce qu'il veut, et si ça n'obéit pas à son obédience, il est capable d'aller dans la brousse prendre les armes d'une armée. Donc vous voyez, il y a des choses qui, quand elles seront révélées au grand public, je pense que le ridicule pourra tuer cette fois-là, puisque c'est des choses inacceptable que la population doit vivre, et au niveau interne, et au niveau de la communauté internationale, et surtout avec la présence de la MONUSCO ici. C'est ahurissant, c'est incompréhensible, c'est abracadabrant, comme dirait l'autre.
John Ngomboa, selon les porte-parole du gouvernement congolais, le M23, les mouvements du 23 mars, ont fait la jonction de force avec les FDLR. Et comment vous analysez cela quand on sait que, officiellement, les M23 disent se battre pour protéger certaines communautés contre notamment les FDLR? Comment ils peuvent encore constituer une coalition? N'est-ce pas une coalition contre nature?
Et ça m'étonnerait, justement, parce que moi j'ai lu, j'ai découvert une dépêche de l'AFP, cela remonte à peu près 10 jours, où le porte-parole de FDLR s'opposait justement à cette liaison. Il a dit que ni de loin ni de près, les FDLR ne pourraient coaliser avec les M23 qui sont une création de Bosco Ntaganda. Et on sait ce que Bosco Ntaganda a fait au FDLR. Donc moi je crois que c'est de la fabulation probablement. Ce n'est pas du tout la réalité.
Joël Kadidanga, depuis le début de cette guerre, on se rend compte que les FRDC sont en train d'accomplir des exploits en délogeant les mutins. À votre avis, comment peut-on sauvegarder cet acquis?
Le câble, on est connu que quand on récupère les villages, on n'annonce rien quand les villages sont pris. C'est là où il y a contrat, c'est là où il y a c'est là où on ne comprend rien. Je voudrais par contre revenir tantôt pour vous dire là où il y a la complicité internationale, c'est lorsque les FDLR semble aujourd'hui être un fonds de commerce que certains pays à l'est de notre pays utilisent, n'est-ce pas, pour pérenniser leur exploitation illégale et irrégulière des richesses de notre pays dans l'est du pays. Même certains, un président, en effet, il ne s'en est pas caché, le président Sarkozy l'a dit la dernière fois qu'il fallait commettre l'exploitation des ressources minières minière dans l'est de notre pays. C'est un secteur de polichinelle. C'est vous dire qu'il y a une complicité et je ne vois pas le cap dont on reconnaît là. Lorsque le feu Mujamabe a récupéré Bukavu, il a essayé d'aller jusqu'au niveau de l'agresseur, comme M. Laurent Désiré Kabila l'avait déclaré, que la guerre va terminer chez l'agresseur. Vous avez compris qu'il a été stoppé net et remplacé immédiatement après. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, comme les confrères venaient tantôt de le dire, qu'il y a des non-dits et des secrets et qui sont malséants, n'est-ce pas, à l'égard de notre pays que l'on voudrait balkaniser. C'est tout ce que les gens ne veulent pas dire à haute voix, mais de toutes les façons, rien ne restera secret. Tout va se savoir et durant les 5 années qui sont devant de nous ici, on saura les réelles raisons de l'insécurité maintenue dans l'est de notre pays.
Magloire Paloukou, je venais de poser la même question à Joël Kadé. Depuis le début de cette guerre, on se rend compte que les FARDC sont en train d'accomplir des exploits en délogeant les mitins. À votre avis, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour permettre aux FARDC de continuer à accomplir ces exploits?
Je pense qu'il faut d'abord payer les militaires congolais, puisque ceux qui sont au front, c'est des commandos formés par les contingents belges, on le sait, qui sont venus de Kindu et qui se comportent bien sur le terrain. En plus de cela, le M23 n'est pas encore une force d'une grande rébellion, c'est des éléments jusque-là qui sont en train de se constituer et de signer des alliances, même contre nature. Donc quand le M23 sera une force, une vraie force organisée, n'oubliez pas qu'il y a seulement un mois que le M23 est là, et je viens de recevoir un communiqué, moi, au bureau, où le M23 signe un communiqué, CNDP M23, qui est un autre courant, où je parlais avec un de leurs responsables. Le commando qui est aujourd'hui au front doit être bien entretenu, puisqu'il y a 2 jours, et c'est passé sur Radio Rapide, nous l'avons tous vécu, qu'à un moment donné, les militaires au front se sont révoltés puisque leurs soldats n'arrivaient pas à temps. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais soldats jusque-là au Congo, depuis le Zaïre. Il y a seulement le soldat qui est mal payé, qui est démoralisé pour ne pas réussir une bataille. Et c'est des faits qui sont là. Et le M23, il ne faut pas le donner le temps de se réorganiser, puisque les membres du M23, comme Kazarama et tous les autres, Makinga, connaissent très bien les FARDC, puisqu'ils sont partis toujours des FARDC. C'est pour cela que sur le terrain, ce n'est pas étonnant que ce commando nouvellement formé se comporte de cette manière-là, qui étonne une réussite congolaise.
Merci, John Gomboa. Qu'est-ce qu'il faut pour pacifier cette partie du pays, l'est du pays? Magloire Paloukou a parlé notamment de payer convenablement les militaires. À part ça, qu'est-ce qu'il faut encore faire?
Moi, je crois qu'il faut d'abord une volonté. Il faut d'abord une volonté, parce que moi, je pense qu'il n'y a pas encore une volonté de pacifier totalement l'est.
De la part de qui?
Mais de la part du gouvernant. Je crois que c'est de leur responsabilité d'abord. Une volonté. Ensuite, quand on a la volonté, on se donne les moyens. Les moyens, c'est quoi? Les moyens, c'est les moyens militaires. Mais l'armée est équipée comment? Depuis qu'on a commencé la réforme, les brassages, les ceci, les cela. Quel est l'équipement dont disposent les FARDC? Mais les FARDC se battent contre quoi? Contre des rebelles, des groupuscules. C'est pas une vraie armée en face. Mais pourquoi est-ce que sur 10 ans, on peut se battre contre des rebelles qui ont tué aussi des enfants rebelles dans le maquis et tout ça, ça continue? Mais entre-temps, vous avez en face une armée. De quoi dispose notre armée? Il faut équiper l'armée, il faut payer la solde des militaires. C'est devenu un gros business, l'argent des militaires est tout le temps détourné, et cela au vu et au su de tous. Je pense que c'est là des éléments qu'il faut absolument restructurer de manière à ce que on puisse mettre un terme à cette histoire. Et je crois que c'est très facile et ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps s'il y a de la volonté et de l'organisation.
Joël Kadedanga, des solutions pour pacifier l'est du pays?
Les solutions passent par la démocratisation des pays dans l'est de notre pays. Il s'agit notamment du Rwanda et de l'Ouganda. Tant que ces deux pays-là ne sont pas démocratisés, la population ne participe pas à la gestion des pays. C'est une dictature qui règne. Et depuis plus de dix ans aujourd'hui, vous connaissez comment les choses se déroulent. Il faut la démocratisation des pays de l'Est de la RDC.
Merci, c'est la fin de cette émission. Guy Manzango était à la technique. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Alain Irung et Samuel Kachak, sous la supervision de Ben Kabamba. Devant le micro, Guy Maté. Merci et bonne suite du programme sur Radio Capitale.